Bien, bonsoir à toutes et à tous. Pardon pour ce léger retard, mais je dois traverser en moins d'une demi-heure Lyon du 7e jusqu'ici, ce qui représente juste trois correspondances. Et ça relève parfois un peu de la performance que d'arriver à tenir les délais. Je vais donc aujourd'hui aborder l'aspect suivant de mon travail, ou plus exactement de ce sur quoi je m'évertue à vous présenter les problèmes, à savoir l'histoire du droit de résistance. Et aujourd'hui, ce qui va m'intéresser, c'est les lectures modernes de l'obéissance et du droit de résistance. Cependant, je souhaiterais, comme je l'ai fait la semaine dernière et comme je le ferai encore aujourd'hui, et probablement la semaine prochaine, partir d'une synthèse, d'une reformulation pour rappeler un petit peu les éléments du problème et ensuite aborder ce qui justifie ici ce thème. Ça sera par la même occasion la possibilité de peut-être répondre à certaines questions qui m'ont été posées et pour lesquelles je n'ai pas toujours le sentiment d'avoir répondu de manière efficace. Donc la semaine dernière, j'ai évoqué un courant de pensée extrêmement important au XVIe siècle, qu'on appelle les monarchomaques. Et ce qui m'intéressait dans ce courant de pensée, c'était cette tentative, cette élaboration et cette tentative de redonner à l'exercice politique de la souveraineté royale un cadre nouveau, un cadre un peu inédit. Je rappelle simplement que le XVIe siècle européen est traversé par tout un ensemble de conflits dont on peut rapidement schématiser les principes autour d'un conflit entre deux pouvoirs fondamentaux, le pouvoir théologique d'un côté et le pouvoir politique de l'autre, dont les institutions représentent d'un côté ce qu'on a pu appeler l'Église universelle et de l'autre le territoire en cours d'élaboration, les royaumes étant entendu ici comme à la fois la délimitation d'un espace géographique et aussi la délimitation démographique, si je puis dire, d'un peuple de sujets, au sens le plus large et le plus indéfini du terme qui soit. On peut dire que donc une partie des conflits qui traversent cette période et ces contrées est un conflit qui s'articule autour de ces deux pouvoirs et que ces deux pouvoirs contestent d'une certaine manière la légitimité ou les prétentions légitimes de chacun d'entre eux. D'un côté, des aspirations à vouloir imposer en quelque sorte au pouvoir politique du roi une dépendance essentielle à l'égard du pape. De l'autre, une volonté très affirmée, notamment de la part du roi très chrétien, du royaume de France, de vouloir s'émanciper en quelque sorte de cette tutelle très chrétienne. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces luttes pour l'indépendance ou pour le maintien de l'influence des pouvoirs les uns à l'égard des autres constituent un arrière-plan qui permet de comprendre une partie de l'intensité des guerres de religion sur le continent européen, et notamment leurs conséquences assez dévastatrices. Et c'est dans ce cadre général que j'ai essayé d'évoquer certains des penseurs politiques qui, comme on le sait maintenant, sont majoritairement des protestants, vont tenter de proposer, au moins théoriquement, un nouveau contrat au roi. Nouveau contrat, c'est-à-dire en fait une nouvelle interprétation de ce qu'il perçoit comme étant les termes d'un engagement du roi à l'égard de son peuple et à l'égard de Dieu. Ce que j'ai expliqué également, c'est que dans ce cadre, on peut comprendre la radicalité, si je puis dire, de ce qui est pensé derrière ces théories de la résistance légitime. En effet, et d'une certaine manière, il s'agissait pour ces auteurs, il me semble que ça je l'ai indiqué assez clairement, il s'agissait pour ces auteurs de comprendre et de faire comprendre que le roi, en son royaume, ne pouvait pas se comporter sans se rapporter lui-même à une autorité supérieure, c'est-à-dire à des normes et à des règles qui sont censées, en quelque sorte, guider les décisions politiques qu'il a à prendre. Au fond, et c'est peut-être ce premier constat qu'il faut faire, sur lequel je n'ai peut-être pas assez insisté la semaine dernière, c'est que revendiquer la possibilité de résister aux décisions du souverain, c'est indiquer la responsabilité du roi à l'égard de Dieu, mais surtout et peut-être à l'égard de son peuple. D'une certaine façon, de ceci on pouvait s'en douter, puisque ce que j'ai montré également la semaine dernière consistait à indiquer que dans le cadre de cette alliance renouvelée, intervenait un nouvel acteur, du moins une représentation d'un nouvel acteur qui ne pouvait pas encore parler ni s'exprimer directement, et qui est le peuple. Je vous rappelle que j'ai longuement insisté sur l'élaboration de ce système à trois pôles qui impliquait à la fois le roi, Dieu et les hommes. Ce qui m'a permis également de vous montrer, d'indiquer, et c'est sur ce point d'ailleurs que je voudrais revenir un instant pour peut-être préciser un petit peu le sens des conclusions que j'ai pu tirer la semaine dernière, c'est que cet acteur, le peuple, dont on va voir qu'il va être de plus en plus au cœur des discussions et des polémiques, cet enjeu, ou cet acteur, était en France notamment, mais pas seulement, en Angleterre également, représenté à travers ces états généraux. Alors, les états généraux, peut-être faut-il quand même le rappeler, et peut-être faut-il vous mettre en garde tout de suite, c'est que ces états généraux, les historiens ont montré que jusqu'aux prémices de la Révolution française, ces états généraux étaient sociologiquement constitués d'hommes qui appartenaient à la noblesse, noblesse de robe, noblesse d'épée, qui étaient composés de clercs et de hauts dignitaires du clergé. Et même si en France, notamment depuis la première convocation des états généraux, qui je vous rappelle remonte à 1302, c'est sous Philippe le Bel, et Philippe le Bel convoque les états généraux pour essayer de trouver une issue au démêlé qu'il a déjà avec le pape. La tradition voulait que ces états généraux soient convoqués principalement pour essayer de clarifier des problèmes ou des situations de crise. Et je rappelle que ces états généraux étaient censés représenter les trois ordres de la société d'Ancien Régime, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Alors, si vous cherchez à travers cette représentation quelque chose comme une représentation populaire, vous n'y trouverez rien. Rien de cet ordre, parce que tout simplement, d'une part, les trois ordres qui constituaient la société d'Ancien Régime étaient représentés à égalité de proportion, et que d'autre part, ce tiers-état, celui qu'on appelait l'état résiduel, était essentiellement composé de bourgeois et d'hommes de lettres, et certainement pas de représentants des classes laborieuses, comme on dira, au XIXe siècle. Mais il me semble ici que ça n'est pas très important de savoir si ce tiers-état ou ces états généraux représentaient effectivement le peuple, comme on va le dire. Mais ce qui importait à mes yeux, c'est plutôt l'idée que la décision du roi pouvait être, dans son principe, l'objet d'une critique ou d'une forme d'interprétation différente. Au fond, on pouvait convoquer les états pour avoir un avis. Ce qui supposait évidemment que l'on puisse admettre que cet avis diverge de celui qu'on avait soi-même. D'une certaine manière, ce qui importait ici, c'est qu'il existe dans le principe, sinon dans les faits, la possibilité d'une instance qui pourrait venir appuyer, conforter, conseiller ou au contraire dissuader, attirer l'attention, émettre un avis discordant. Bref, le principe de cette représentation par les états généraux, c'était précisément de reconnaître que la décision du souverain pouvait être une décision qu'il fallait éclairer, qu'il fallait étayer, et que le roi lui-même ou lui tout seul ne pouvait pas nécessairement y parvenir. Alors, évidemment, je raisonne sur le plan des principes, parce que, comme vous le savez, dans les faits, c'est le roi qui convoque les états généraux. Il était libre de le faire, et donc également libre de ne pas le faire. Et dans le cas de l'histoire française, On sait que depuis l'institution de l'absolutisme royal, la dernière convocation des États généraux date de 1614, et c'est Richelieu qui, en quelque sorte, clôt ce principe, et les États généraux ne seront plus convoqués jusqu'à la fameuse convocation des États généraux convocation qui va précéder et préluder, en quelque sorte, les événements révolutionnaires. Donc, on voit bien ici qu'il s'agit simplement de poser, et c'est ce qui m'intéresse, le principe de la possibilité d'une discussion ou la possibilité d'un éclairage de la décision du souverain. Alors, je rappelle juste au passage, et pour mémoire, que dans le cas de l'Angleterre, par exemple, le Parlement, qui est l'instance, l'Assemblée ou le Parlement, la Chambre des communes, qui est l'instance représentative du peuple anglais, lui était convoqué régulièrement. Il était inscrit dans les lettres, dans les principes même du fonctionnement de la souveraineté partagée, la Chambre des communes convoquée régulièrement. Alors ici, ce qui m'intéresse du point de vue de la question du contrat ou de l'alliance qui unit le roi d'un côté, le peuple de l'autre et Dieu enfin, c'est cette idée que au XVIe siècle, chez ces théoriciens monarchomaques, eh bien la possibilité de contester ce qui apparaissait jusque-là dans les faits comme en principe incontestable est une nouveauté. Une nouveauté qui va provoquer évidemment bien des critiques. Alors, par rapport à ce contexte, une dernière remarque qui me permettra peut-être de compléter un petit peu ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est que la nouveauté apportée par ces monarchomaques, c'est que au nom de cette nouvelle interprétation de l'alliance qui va réunir ces trois pôles en un système d'obligations partagés, ils revendiqueront la possibilité de constituer un conseil, c'est-à-dire une instance qui pourrait de façon permanente venir accompagner les décisions du roi. Et c'est en ce sens précisément que les monarchomaques sont ceux qui s'opposent au principe du gouvernement d'un seul. Ils étaient convaincus de la nécessité de partager la décision et de l'utilité d'un conseil. Alors, c'est ce point précisément qui va faire l'objet d'une très très forte polémique, comme je vais le montrer aujourd'hui, au XVIIe siècle, notamment en Angleterre. Alors, il me faut, pour terminer ce cadrage et ce rappel de synthèse, encore insister sur une autre caractéristique de cette pensée politique, qui va être en quelque sorte un enjeu de discussion autour des guerres civiles qui vont traverser l'Angleterre du XVIIe. C'est l'idée que cette notion de contrat ou d'alliance, c'est précisément accepter le principe qu'il existe de la part du roi comme de la part du peuple des obligations et des droits réciproques. Cela veut dire que le roi, pour être écouté et obéi, doit se soumettre au respect d'un certain nombre de principes. Ce qui veut donc dire que l'exercice de la souveraineté, pour les monarchomaques, ne peut plus être un exercice absolu. Ou pour le dire encore d'une autre manière, que le respect des décisions souveraines est lui-même conditionné par le respect de principes et de normes plus élevés. C'est en quelque sorte cette conditionnalité dans l'exercice de la souveraineté qui va être discutée au XVIIe siècle de manière extrêmement soutenue, comme je vais vous le montrer. Donc ce qui va m'intéresser maintenant, et c'est l'objet de cette présentation, c'est de revenir sur quelques-uns de ces débats qui, dans l'Angleterre du XVIIe siècle, vont réceptionner et objecter en quelque sorte à ces thèses monarchomaques. Alors d'abord, cette pensée des monarchomaques, on ne la trouve pas seulement sur le continent européen, on va la retrouver sous des formes différentes. Je ne vais pas me lancer dans une histoire extrêmement minutieuse de la diffusion de la pensée monarchomaque. Excusez-moi. Mais on va la retrouver notamment à travers la pensée d'un auteur qui est un Écossais, qui s'appelle George Buchanan, qui vivra entre les années 1506 et 1582, mais qui est de son état historien et poète, et qui va lui aussi en quelque sorte développer ses thèses, et c'est ces thèses qui vont être discutées au XVIIe siècle, donc bien après la mort de cet auteur, par un certain nombre de grands penseurs politiques, dont notamment deux auteurs que vous connaissez au moins de nom, Robert Filmer, que je n'évoquerai pas ici aujourd'hui pour en avoir parlé en d'autres occasions, et Thomas Hobbes, qui lui va occuper mon propos aujourd'hui. Autrement dit, la question qui est soulevée par les thèses monarchomaques, à savoir que l'on peut discuter les principes selon lesquels le souverain exerce sa souveraineté, cette thèse-là va être discutée. Et elle va être discutée d'abord pour une raison de contexte extrêmement évidente, c'est que à partir de la fin du règne de Jacques Ier et au tout début du règne de Charles Ier, je vous le rappelle, est celui qui en 1649 va se faire décapiter, sur la décision du Long Parlement et notamment sous l'influence de Cromwell. Ce qui est intéressant et ce qui est important ici pour comprendre l'effet de contexte, c'est que les guerres civiles qui vont traverser à partir des années 30 et ce jusqu'à la fin des années 40, au moins pour la première partie de ces guerres, l'Angleterre, portent précisément sur le caractère divisé de l'autorité souveraine. D'une certaine manière, à partir de la fin du règne de Jacques Ier, les rois, pour pouvoir financer un certain nombre de campagnes militaires, notamment en Écosse, sont obligés de justifier de leurs intentions auprès d'un parlement qui est de plus en plus réticent à accorder la levée d'impôts. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette histoire, ce que je veux simplement dire, c'est qu'on voit bien à cette occasion que la division et la répartition du pouvoir souverain entre le monarque d'un côté et les chambres de l'autre occasionne des tensions, et occasionne des tensions qui peuvent devenir des conflits beaucoup plus larges, puisqu'ils vont se déployer sous la forme de guerres civiles, où le roi lève des armées, où le parlement lève des armées, et où il y a des événements, des épisodes guerriers, comme on dirait aujourd'hui, qui se traduisent par des conséquences absolument dramatiques pour les populations civiles. Donc, dans ce contexte extrêmement tendu, un certain nombre de penseurs politiques, un certain nombre de philosophes, dont Thomas Hobbes, vont essayer de proposer une lecture de cette crise et de proposer des solutions à cette crise, évidemment. Hobbes, par exemple, qui est au service de la famille Cavendish, qui est une très grande famille de la noblesse terrienne patricienne anglaise et qui est au service du roi, famille connue pour ses engagements monarchistes, eh bien Hobbes, en 1640, on est donc vraiment là dans un moment extrêmement tendue de ce mouvement fait paraître sous le manteau un texte intitulé « Les éléments de la loi naturelle et politique », un texte qui est publié en anglais directement, c'est-à-dire dans la langue vernaculaire, dans la langue de tout le monde, et qui ambitionne à la fois d'essayer de proposer une interprétation de la crise et en même temps une solution possible à cette crise. Cette solution, elle relève de ce qu'il va appeler d'ailleurs une science nouvelle, hein, puisque comme tous un petit peu dans ce siècle, dans ce grand 17e siècle, qui est aussi le siècle, l'apogée de l'âge classique, les philosophes, que ce soit Descartes pour la science naturelle et physique, Hobbes pour la science politique, se présentent aussi comme des inventeurs de sciences nouvelles, hein, des fondateurs en quelque sorte. Et c'est au nom de cette analyse, de cette nouvelle analyse de la politique, qu'il va nous proposer une solution possible à la crise. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir proposer une solution tenable, il faut d'abord essayer de disqualifier les positions adversaires. Et évidemment, parmi les positions des adversaires, on va rencontrer celles des monarchomaques, dont on va voir qu'ils sont... ces positions vont être réutilisées par d'autres adversaires. Alors il y a peut-être est-il utile que je fasse une toute petite parenthèse pour indiquer comment est fait ce texte. Donc ce texte est écrit en anglais. En anglais parce que justement Hobbes avait dans l'intention de le rendre immédiatement lisible, non pas par la communauté des savants, puisque la communauté des savants à cette époque-là s'exprimait dans une langue européenne, internationale, qui était le latin. La langue savante, au XVIIe siècle, c'est encore le latin, mais c'est pour être directement lu par ceux qui sont près des cercles de décision, près du roi. Hein? Donc ça, c'est quand même un point important. Deuxième point important, ce texte est divisé en deux grandes parties. Une première partie qui est une sorte d'analyse de ce qu'il appelle la nature de l'homme. Pour comprendre pourquoi l'homme en vient à se faire la guerre à lui-même, il faut essayer de comprendre ce qu'il est. Et répondre à cette question, eh bien, c'est essayer d'identifier ce qu'est sa nature. On parlera ou on parlerait d'une anthropologie, c'est-à-dire d'un discours sur la nature de l'homme. Et puis dans la deuxième partie, il propose des solutions. Il propose des solutions politiques. Hein. Et évidemment, ces solutions politiques, elles vont vers une seule et unique position, il faut restaurer le caractère unifié et absolu de la souveraineté. Autrement dit, ce qui est cause de la guerre civile, ce qui est cause de la fragilisation, voire de la disparition du souverain, c'est que la souveraineté dans son exercice est divisée et qu'elle est limitée. Divisé parce que tout simplement, vous avez, de par l'histoire de l'Angleterre, une répartition des prérogatives entre le Parlement et le roi. Et que cette répartition des prérogatives, en cas de désaccord, en cas de mésentente sur l'interprétation de la légitimité des décisions, est un facteur de blocage. Et ce facteur de blocage est aussi un facteur qui menace la pérennité du régime politique. Donc, la solution, évidemment, c'est de réunifier et d'absolutiser l'exercice de la volonté souveraine. Ce qui veut donc dire que la nature des critiques qui va être adressée, la nature des critiques qui vont être adressées par Hobbes à tous ces contradicteurs, va reposer sur ce principe. Ce que vous dites, ce que vous proposez, produit la division, produit la sédition. Et qui dit division, dit fragilisation, et qui dit fragilisation, dit menace sur la pérennité des conditions possibles de la paix. Car, vous l'avez bien compris, ici, ce qui importe à Hobbes, c'est évidemment de restaurer des conditions de coexistence paisibles. Or, à ses yeux, la seule manière, évidemment, de reconstruire les conditions de cette coexistence paisible, eh bien, c'est un pouvoir unifié et un pouvoir absolu. Alors, ici, évidemment, je ne vais pas discuter de la légitimité de cette position. Ce qui m'intéresse, c'est de confronter cette position aux revendications des monarchomaques. Alors, dans un chapitre très important qui débute la deuxième partie de ce livre, Hobbes va justement accuser ses adversaires. Et ses adversaires, il va les traiter en utilisant deux adjectifs particulièrement lourds. Il les traitera de dogmatiques et de séditieux. Dogmatiques parce que, d'une certaine manière, leur position revêt une sorte d'affirmation qui est extrêmement contestable, et séditieux parce que qui dit séditieux dit esprit de division. Et on va retrouver, comme vous allez le voir, systématiquement, à propos de ces différentes formes de revendication de la querelle des autorités légitimes, ce même argument. Alors, je fais une dernière parenthèse, mais qui me semble importante, c'est que Hobbes n'est pas le seul à défendre cette position à cette époque-là. Je prends le cas de Hobbes parce que c'est le plus exemplaire. C'est celui dont les thèses ont été les plus connues et reconnues, mais il y a un certain nombre d'auteurs, de penseurs, notamment chez les monarchistes, chez les défenseurs de la position du caractère absolu de la monarchie, que l'on retrouve. Alors, pour exemple, un auteur dont j'ai parlé, Robert Filmer. Robert Filmer est un contemporain de Hobbes et il va défendre des positions analogues. Je ne dis pas les mêmes positions, je dis des positions analogues, car comme vous le savez, Filmer, lui, fonde la légitimité du caractère absolu du pouvoir monarchique sur une lecture théologique et naturaliste de la transmission du pouvoir par la filiation. D'où le titre d'ailleurs de son opus principal qui s'appelle « Des patriarcats », « Le pouvoir des patriarches ». Alors, pour entrer maintenant un petit peu dans le détail de ces analyses, Hobbes va passer en revue un certain nombre d'opinions séditieuses. Et quelle est la première des opinions qu'il va contester ? Et vous allez voir qu'on est toujours dans le même problème. Il rejette l'idée que défendent certains religieux, certains sectaires, dit-il aussi, qui consiste à affirmer que l'individu a la possibilité d'invoquer sa conscience pour décider en son âme et conscience s'il accepte ou s'il refuse d'obéir aux décisions du monarque. D'une certaine manière, l'argument est le suivant: je revendique le droit de déterminer ma conduite en me rapportant à ce que me dicte ma conscience. Étant entendu que cette conscience est le canal par lequel je pourrais accéder à une interprétation de l'autorité divine. Il faut quand même bien ne pas oublier qu'à cette époque-là, l'argument est toujours, d'une manière ou d'une autre, rapporté aux autorités des textes sacrés. Et que la question qui va se poser, et comme je vous le dirai tout à l'heure, la question que tranchera de manière extrêmement réaliste et extrêmement pragmatique Hobbes, c'est de savoir qui interprète les textes sacrés sur lesquels repose finalement, en dernière instance, la légitimité du pouvoir du roi. Donc, vous avez tout un courant, tout un ensemble de sectes religieuses qui vont défendre et qui s'inspirent d'une certaine interprétation de l'individualisation du rapport au transcendant hein, qui défendent l'idée que l'individu, en son âme et conscience, peut accéder à une lecture et à une interprétation des textes sacrés, et ce faisant, donc, évidemment, cette interprétation peut lui dicter sa conduite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, précisément, pour Hobbes? Eh bien, ça veut dire que l'on admet, et c'est un sujet très contestable, cela veut dire que l'on admet qu'il puisse y avoir une concurrence entre deux autorités accédant à l'interprétation des textes sacrés. Il y aurait d'une part l'autorité du roi, qui est le souverain, et il y aurait d'autre part l'autorité de la conscience individuelle. Or, justement, ce que nous dit Hobbes, et sur ce plan, il n'y a pas de raison de le contredire, c'est qu'un tel conflit a pour effet que d'une manière ou d'une autre, l'individu va s'efforcer ou désirer s'efforcer s'affranchir de la tutelle du roi. Autrement dit, ce conflit des voies d'accès à l'autorité des textes sacrés, d'un côté l'autorité de Dieu, de l'autorité du roi, de l'autre celle de la conscience, produit objectivement une situation où rien ne permet d'affirmer que les deux autorités convergeront pour interpréter de la même façon les textes sacrés. Alors le raisonnement est alors le suivant. Ma conscience qui fonde mon intime conviction me permet de dire autrement et de lire autrement les textes sur lesquels le roi fonde sa propre décision. Et donc, ma conscience me dicte de désobéir. Parce que si je ne désobéis pas au roi, c'est alors à Dieu que je vais désobéir. Donc, dans ce type de raisonnement, vous voyez bien qu'il y a deux voies d'accès au message divin. Le roi qui, par nature, représente Dieu sur terre, et l'individu avec sa conscience. Or, ajoute Hobbes, puisque rien ne permet d'affirmer a priori que les deux convergent, tout permet de dire, au contraire, qu'il y aura des conflits. Alors, le rôle de cette interprétation, ou plutôt de cette mise en concurrence de la manière d'interpréter les textes sacrés, évidemment, elle peut faire intervenir d'un côté la conscience de l'individu, ce qui n'est qu'une lecture de la réforme, mais ce qu'il faut comprendre, et c'est là où le propos de Hobbes est d'une actualité brûlante, c'est que vous avez tout un tas de sectes religieuses, d'obédiences extrêmement diverses, qui vont justement revendiquer le droit d'interpréter les textes sur lesquels traditionnellement se fonde la légitimité du pouvoir souverain. Et donc, ces sectes religieuses, elles vont essayer de capter en quelque sorte, en leur propre nom, la possibilité d'interpréter la parole de Dieu, et donc elles vont s'efforcer de détourner de leur obéissance naturelle les sujets concernés. Donc, d'une certaine manière, on voit bien comment ici, cet argument va produire un effet généralisé de captation des autorités, de conflit entre ces différentes autorités, et donc un état, sinon de guerre effective, du moins de conflictualité en termes d'interprétation, et qui, à cette époque-là, se traduisait très vite par des formes de guerre, et de dérives fanatiques. Autrement dit, conséquence de tout ceci, c'est évidemment que l'unité du corps politique, si nécessaire au maintien de la paix dans les relations interindividuelles, cette unité du corps politique est menacée. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, Hobbes s'oppose à ce genre de justification. Et il s'y oppose pour un argument pragmatique qui est absolument essentiel à ses yeux. c'est que sans l'unité du corps politique, il n'y a pas de paix. Alors, quelle est la solution que propose ici, sur ce plan précis? Hobbes, je cite et je commente. Il revendique que chacun obéisse au souverain. Et ainsi obéissant à son souverain, je le cite, un homme agit selon sa conscience et son jugement, ayant déposé son jugement à propos de toutes les controverses dans les mains du pouvoir souverain. Autrement dit, pour interpréter ce propos, si on veut éviter les conflits d'interprétation qui sont facteurs de dissension et de division, si on veut éviter les tensions et les oppositions en matière de lecture des paroles sacrées et des textes sacrés, la seule solution efficace qui soit, c'est de confier à une seule instance, à une seule autorité unique, le soin de dire le vrai et le faux à propos de cette interprétation. Tout comme il faut une autorité unique pour exercer la souveraineté, de la même façon, il faut une autorité unique pour interpréter les doctrines théologiques. C'est pourquoi, et la conséquence ne vous surprendra pas, il importe pour Hobbes que le pouvoir spirituel soit strictement soumis au pouvoir temporel. Alors, je voudrais juste attirer votre attention ici sur un point. C'est important parce que ça n'apparaît pas dans mon propos, mais quand même, je ne peux pas m'empêcher de le dire. C'est que, à aucun moment, Hobbes ne se prononce sur le fait de savoir si ce que disent les textes sacrés est vrai ou faux. Il n'intervient pas sur cette question. Il reconnaît l'importance des textes sacrés. Il reconnaît la valeur politique de ces textes sacrés. Il dit simplement, il ne doit y avoir qu'une seule autorité qui puisse se prononcer sur cette validité. C'est par l'unicité de la source d'interprétation qu'on réglera le problème des conflits qui sont liés justement aux querelles de lecture des textes sacrés. Or, d'une certaine manière, évidemment, la pluralité des sources d'interprétation qui va avec la pluralité des sectes et des obédiences religieuses, hein, des sensibilités, que ce soit du côté de l'anglicanisme, du côté du puritanisme, du côté des papistes, etc. Cette pluralité, elle est en quelque sorte un facteur endémique qui va entretenir les églises, les factions, et qui va évidemment entretenir les tensions et les guerres civiles. D'une certaine manière, la position de Hobbes n'est jamais qu'une sorte de radicalisation de la position d'Henri VIII. Je vous rappelle quand même que l'église anglicane est constituée de fait institutionnellement par Henri VIII, qui, pour régler des problèmes de divorce, hein, puisque c'était ça, il avait quand même une libido qui était relativement forte, et il avait besoin de pouvoir aimer une femme, la décapiter ensuite, et enfin se marier avec une nouvelle femme, il lui fallait quand même des bulles papales de divorce, et il n'a pas pu obtenir celle qui lui convenait. Du coup, il a réglé le problème à sa manière, il a décidé que finalement il était l'incarnation vivante des deux pouvoirs, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. D'une certaine manière, Hobbes apporte, sur le plan de l'argumentation théorico-philosophique, une justification extrêmement puissante à ce type d'événement. La seconde opinion séditieuse qui va être discutée par Hobbes, et qui est une autre formulation de la thèse des monarchomaques. Alors ici, vous comprenez pourquoi il s'agit aussi d'une première formulation de la thèse des monarchomaques, parce que d'une certaine manière, on reconnaît le caractère discutable de certaines décisions du monarque est qu'on prétend s'ériger en autorité compétente et rivale de celle du roi. La deuxième opinion séditieuse qui va être discutée, elle est portée essentiellement par les parlementaristes. Alors le terme de parlementariste ici, il faut bien le comprendre, ça veut dire à la fois ceux qui sont membres du Parlement et qui pouvaient, et qui avaient d'ailleurs souvent des opinions extrêmement élaborées, hein, puisque n'étaient pas au Parlement qui voulaient, mais ça veut dire aussi défendre la position qui consiste à revendiquer la légitimité d'un pouvoir partagé entre le roi et le Parlement. Alors, en quoi consistait cet argument et de quelle manière, là aussi, Hobbes va le critiquer. Cet argument consiste à dire le roi ne peut pas faire ce qu'il veut. Le roi ne peut pas faire ce qu'il veut parce qu'il est tenu à respecter les lois fondamentales du royaume. Et là, on est encore plus proche, si vous voulez, des arguments monarchomaques. Le roi est tenu au respect des lois du royaume. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la prérogative royale n'est pas la prérogative en dernière instance. Que le roi ne peut pas s'émanciper dans l'exercice de son pouvoir, de la connaissance qu'il doit avoir des lois fondamentales de son royaume, et, à supposer qu'il les connaisse, de leur respect. C'est très précisément ce type de lecture qui engage la thèse des monarchomaques, qui consiste à dire le roi ne peut pas faire n'importe quoi, il est tenu de respecter un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'idées concernant la justice, le bien commun, et les décisions qu'il prend dans le cadre de son mandat doivent permettre d'y conduire. Donc ici, lorsque les parlementaristes revendiquent l'existence de ces lois fondamentales et le respect nécessaire par le roi de ces lois fondamentales, ils ne font que réutiliser d'une certaine manière l'argument des monarchomaques, hein, et à l'adapter en quelque sorte dans le contexte très particulier et précis, hein, qui est celui du régime politique anglais. Alors, en quoi consistent ces lois fondamentales? Bien, ces lois fondamentales, nous disent les parlementaristes, elles auraient été rédigées et couchées sur le papier dans une grande charte, la Magna Carta, qui aurait été signée pour la première fois au début du XIIIe siècle, en 1215, par un roi affaibli qui s'appelle Jean sans Terre et ses barons. Les barons étant considéré, alors là il y a toute une série, une querelle d'interprétation, je laisse ça de côté, qui est passionnante, mais qui me déporterait trop de mon propos immédiat. Le roi aurait donc signé avec ses barons une sorte de charte qui l'engage à l'égard de son peuple, représenté par les barons, et qui, de fait, limite la prérogative royale. On aurait donc, à travers cette première grande charte signée en 1215, comme un proto-contrat, une sorte de premier contrat originaire, qui engageait d'un côté le roi, de l'autre les barons, et derrière les barons, les ordres qu'ils représentaient, et tout ceci sous l'aimable bienveillance du regard divin. Donc en un mot, qu'est-ce que cela veut signifier? Et c'est ça qui est important ici dans l'argument parlementariste et qui va être à nouveau critiqué par Hobbes, c'est l'idée que l'exercice de la souveraineté, l'exercice du pouvoir souverain, ne peut pas être absolu et qu'il est en quelque sorte tenu par des prescriptions qui sont elles-mêmes indiquées par ces lois fondamentales. Autrement dit, et c'est le deuxième temps de l'argumentation, et c'est là où on retrouve une fois encore les monarchomaques, la question qui va se poser, c'est comme tout à l'heure la question de l'autorité des textes sacrés. Oui, d'accord, les textes sacrés ont une autorité, mais comment les comprendre? Donc, problème d'interprétation. Oui, d'accord, les lois fondamentales sont effectivement celles qui vont établir le cadre à l'intérieur duquel exercer la souveraineté, mais comment les interpréter? Qui va les interpréter? Au nom de qui? À partir de quels intérêts? Bref, l'idée qu'il existe des lois fondamentales ouvre à nouveau la possibilité d'un conflit d'interprétation. Conflit d'interprétation qui, évidemment, va porter sur les droits et les devoirs du roi, sur ce qui vient limiter l'exercice de la souveraineté, va porter également sur les droits et les devoirs du Parlement. Je rappelle quand même que tout au long des guerres civiles qui vont traverser cette période du XVIIe siècle anglais, le roi et le Parlement ne cessent de s'adresser des invectives et évidemment de se reprocher une mésinterprétation des termes de leur engagement réciproque. Quelles sont mes prérogatives? Quels sont mes privilèges? Et sur ce plan, le conflit d'interprétation est infini et il va alimenter évidemment le conflit tout court. Donc, on voit bien ici, pour Hobbes, et à partir du point de vue de lecture qui est le sien, comment ces conflits d'interprétation sont une source supplémentaire à laquelle il faut, enfin, qu'il faut ajouter à ce qu'on vient de voir à propos de la lecture théologique de l'autorité de la souveraineté. Comment ces conflits d'interprétation vont avoir un effet dévastateur, vont entraîner de nouvelles divisions, de nouvelles dissensions, et donc, évidemment, de nouvelles menées séditieuses. Hein, pour le dire en d'autres termes, l'interprétation de la loi fondamentale va pouvoir permettre à certains d'opposer au souverain une autre lecture des termes de la Constitution, et donc de justifier la possible résistance ou la possible désobéissance à l'égard de ce qui est posé comme le décret naturel de la souveraineté légitime. On voit donc bien ici que on a affaire avec ces deux types d'opinions séditieuses, celles qui sont menées par les sectes religieuses d'un côté, et celles qui sont menées par les parlementaristes sur un terrain plus directement politique. On a là deux facteurs de division qui viennent en quelque sorte ruiner l'unité du corps politique et alimenter de manière indéfinie les guerres civiles. Alors, aux yeux de Hobbes, alors là aussi, attention, je ne dis pas que Hobbes a raison dans sa lecture. Ce qui m'intéresse, c'est la nature des arguments qui sont invoqués. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'évidemment, dans les deux cas, qu'il s'agisse des menées religieuses ou strictement politiques, le type d'objection adressée est le même. Vous provoquez la division en justifiant le conflit des autorités légitimes susceptibles d'interpréter les textes. Ou d'interpréter les textes. Alors, qu'il s'agisse des textes religieux, des textes sacrés, qu'il s'agisse des textes des lois fondamentales. Mais dans les deux cas, il y a un problème d'interprétation, et dans les deux cas, si vous autorisez la possible rivalité des sources d'interprétation, alors on s'expose à des conflits infinis. Et on voit bien ici, encore une fois, que dans les deux cas, la nature de la position n'est jamais qu'une forme de réappropriation et de reformulation de la thèse fondamentale des monarchomaques, qui accepte le principe d'une mise en question de ce qui fait la source de l'autorité souveraine. Donc, il me semble que là-dessus, la position de Hobbes est évidemment clair, sur le plan pragmatique et sur le plan des principes, il faut revenir à l'expression unique, univoque, unifiée et illimitée, en quelque sorte, au moins dans sa pratique de l'exercice de la souveraineté. Alors j'en viens maintenant à la réfutation d'une dernière opinion fallacieuse, et qu'il a directement adressée aux représentants anglais des théories monarchomaques. Et voici comment le problème est posé. L'auteur fait valoir l'argument suivant. Je rappelle que dans le cas, dans la thèse telle que je l'ai présentée la semaine dernière, c'est l'idée qu'au fond, le roi, dès lors qu'il est suspecté de prendre des décisions qui sont réputées illégitimes, c'est-à-dire non conformes aux engagements qui sont les siens, peut-être désobéit. Il est possible, pardon, de désobéir au monarque qui prendrait des décisions illégitimes. La question qui se pose, c'est quelle est la place de celui qui juge, en dernier recours, de la légitimité de la décision du souverain. Et ici, l'argument de Hobbes va être un argument sur le plan formel tout à fait imparable. Au fond, pour pouvoir décider de désobéir au souverain, il faut que moi, individu, je m'érige en instance dont la légitimité serait au moins équivalente à celle du roi. Mais, répond Hobbes, si tel est le cas, alors le roi n'est pas le roi, puisque ce qui définit la position du souverain, c'est justement qu'il est souverain, c'est-à-dire qu'il est au plus haut dans l'échelle de l'autorité légitime après Dieu, évidemment. Donc, d'une certaine manière, la possibilité de penser que vous puissiez désobéir supposerait que vous puissiez vous ériger vous-même en tant qu'individu à un niveau qui serait celui au moins du roi, sinon plus. Ce qui veut donc dire que le roi serait dépossédé du caractère absolu de sa souveraineté et, en quelque sorte, ne serait pas celui qu'il est. Autrement dit, la prétention à vouloir indiquer à quelles conditions il serait possible de s'opposer au roi signifie, selon Hobbes, qu'il faudrait inventer un roi au-dessus du roi. C'est ce qu'il appelle une contradiction ou une incompatibilité. Autrement dit, vous ne pouvez pas désobéir au roi, dit Hobbes, parce que tout simplement, vous ne pouvez pas vous mettre à la place du roi ou au-dessus du roi pour juger de la légitimité de sa décision ou de ses décrets. L'argument monarchomaque ici est rejeté sur un plan qui est très particulier, qui est celui d'une contradiction formelle. Il faut quand même bien reconnaître que cet argument n'est pas le plus fort. Autant on peut comprendre que le fait d'inciter à la division, à la dissension, à la multiplicité des sources d'autorité légitime qui vont évidemment entraîner les conflits et les guerres civiles est un argument qui, sur le plan politique, est extrêmement puissant. Cet argument-là, il est plus formel, mais il indique bien une difficulté que, pour le coup, Hobbes a parfaitement entrevue, mais qu'il met de côté, et que Locke reprendra, j'en parlerai la semaine prochaine. À savoir, est-il véritablement nécessaire de s'ériger en monarque pour pouvoir juger du monarque? La question, ce n'est pas de juger le monarque, c'est d'essayer de comprendre les principes d'après lesquels il décide. C'est d'essayer de comprendre ces fameuses lois fondamentales au nom desquelles le souverain monarque prend sa décision, gouverne, fait des lois positives. Or, pour pouvoir comprendre ce que sont ces lois fondamentales, pour en identifier le contenu. Que devons-nous mettre en œuvre? Certainement pas le fait d'être un roi à la place du roi, mais, dira Locke, le fait d'utiliser sa raison. C'est-à-dire, le fait d'utiliser quelque chose qui caractérise tous les hommes, en tant qu'ils sont des hommes, à savoir qu'ils ont une faculté pour raisonner, et que s'ils font un usage droit de cette faculté pour raisonner, eh bien, ils vont pouvoir, par la raison, rationnellement, identifier le contenu de ces lois. Et ce que refuse ici, évidemment, Hobbes, c'est de donner à cette faculté de raciocination, à cette faculté de raison, toute sa place, parce qu'il est obsédé, en quelque sorte, par la nécessité de contenir tout ce qui peut être un facteur de dissension. La question, et ce sera mon mot de conclusion pour aujourd'hui, c'est de savoir s'il est possible d'imaginer une capacité libre à utiliser sa raison pour deviner, identifier ce qu'est cette loi fondamentale au nom de laquelle le souverain doit lui aussi orienter ses décisions. Et si l'on peut, en laissant les individus exercer cette faculté de raisonnement, penser en même temps les conditions d'une paix, c'est-à-dire d'une coexistence pacifique. À cette question, Hobbes répond non. Il dit ce qui relève de la conscience et de l'intériorité, c'est le domaine de la vie privée. Dans l'espace public, on ne peut pas en faire état. À cette question, Locke répondra oui, et notamment à travers une série de textes tout à fait fondamentaux qui vont ouvrir sur un problème qui caractérise toute la fin du XVIIe siècle, qui est le problème de la tolérance. Comment penser à la fois un régime politique qui soit unifié, stable, qui permette de coexister pacifiquement, et en même temps des individus revendiquent des positions, des convictions différentes. Je vous remercie.